Merci Joanna d'être avec moi pour cette petite discussion. Donc, on va parler du travail de Camille Turner et du Aeronautic Research Lab. Ma première question, c'est sur l'afrofuturisme. Donc, Camille se décrit comme une artiste afrofuturiste. Et il existe plusieurs définitions et interprétations de ce terme qui sont souvent très personnelles et vraiment relatives au travail de l'artiste qui l'emploie. Donc, peux-tu me parler davantage sur l'afrofuturisme et comment le travail particulièrement de Camille Turner s'inscrit dans ce courant?
Bien, merci pour l'invitation. Écoute, l'afrofuturisme, c'est un courant qui est très difficile à définir de façon claire. En gros, comme avec la fiction spéculative, le centre de ce mouvement-là, c'est une question. C'est la question « et si? » « What if? » Et donc, dans le cas de l'afrofuturisme, souvent la question c'est « et si on survit jusqu'à 4021? » Et si l'esclavage n'avait jamais eu lieu? Et si le racisme anti-noir disparaissait? Donc, ensuite, le résultat, c'est une exploration de cette question presque politique, idéologique, de façon, d'une perspective noire. Et dans le cas de Camille, la question, c'est et si nos ancêtres, par exemple le peuple Dogon qu'elle utilise dans sa pratique, et si eux avaient des questions par rapport à notre présent? Et donc, son travail met en place une espèce d'exploration d'une perspective externe sur la situation des peuples noirs au Canada en ce moment.
Peux-tu me parler un peu du contexte dans lequel Camille a été invitée chez Artext avec le projet du Aeronautic Research Lab, qui fait partie du projet Arts Against Post-Racialism?
C'est un peu égoïste comme situation. C'est un projet que j'avais vu passer un an avant que je lance l'invitation. C'était un projet qui avait pris place à McGill, organisé par le Dr. Philip Howard, prof à McGill, en collaboration avec plusieurs artistes. Et c'était une exposition ainsi qu'une conférence itinérante qui avait voyagé dans plusieurs universités au Canada, dont McGill. Par contre, le jour où le projet a pris place à McGill, j'étais malade. Et donc, j'ai manqué ma chance de participer au projet. Et ça m'est resté un peu dans le cœur, sur l'esprit, et parce que j'aime beaucoup Camille, j'admire son travail depuis plusieurs années. Je connaissais le prof Philip Howard de près ou de loin, et donc j'étais vraiment très, très, très déçue d'avoir manqué ma chance, parce que le projet était, c'était presque un pop-up. C'était là pendant une journée à chaque université, et puis après ça, c'était fini, c'était parti, ça disparaissait. Et donc, quand j'ai pu proposer le projet à Artex, c'était une façon pour moi un peu d'avoir accès à cette expérience manquée, mais aussi c'était une façon pour moi de rendre hommage à Camille Turner, une artiste qui m'a vraiment marquée en tant que jeune historienne de l'art noir au Canada, et aussi de réfléchir davantage à ce que ça veut dire pour nous en tant que centre de documentation d'interagir avec des œuvres qui sont en soi de la documentation. Parce qu'il y a aussi ce volet de la pratique de Camille qui est absolument fascinant. C'est une capsule historique mouvante. J'en parle souvent avec Camille. J'ai pas tout à fait l'impression qu'elle est consciente de la grandeur de ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle est en train de faire, évidemment, mais il y a des moments où ça me frappe. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans cette salle-là que la performance en soi. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'avais manqué ma chance. C'était mon opportunité de vivre le lab pour moi-même.
Je pense qu'on a été très chanceux à Artex, puis toutes les gens qui ont vécu l'expérience de l'installation et la conférence qui est s'en est suivi d'être en contact avec cette œuvre-là et ce projet-là. Donc, merci. Puis, c'est une installation qui requiert du travail de la part de la personne qui en fait l'expérience. Et ça peut même être très confrontant, surtout quand on considère les lacunes béantes dans le curriculum sur l'histoire enseignée à l'école. Donc, je me demandais comment tu as trouvé la réception du projet à Artext.
Ça dépend de qui on parle. Parce que pour les personnes noires qui sont rentrées dans cet espace-là, c'était un moment, à ce que j'ai pu comprendre, les histoires qu'on m'a partagées, c'était un moment de reconnaissance qui est extrêmement rare. C'était un moment durant lequel ces personnes-là pouvaient se sentir comme si, pour une fois, c'était pas l'exception à la règle. Pour une fois, leur présence et leur histoire n'étaient pas une nouveauté, une surprise ou autre. C'était un moment presque de recueillement, un moment de connexion avec ce qu'on sait qui existe déjà de façon profonde et interne. Donc, je pense que l'expérience des personnes noires, des visiteurs noirs qui sont venus était très différente et très personnelle de cette façon-là. Et pour les visiteurs qui étaient non noirs, que ce soit des personnes racisées, non blanches ou des personnes blanches, c'était une toute autre expérience parce qu'à ce moment-là, c'était une expérience, et je ne peux pas en parler parce que, évidemment, je ne suis pas blanche, mais ce que j'ai pu comprendre, c'était que c'était un moment où les gens prenaient conscience de leur ignorance. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. C'est quelque chose qui peut être très lourd et blessant et maladroit et inconfortable. Et c'est un espace qui, avec les performeurs dans l'espace, c'est un espace qui cherchait non seulement à rehausser cet inconfort, mais aussi à le tenir. Parce que ce que ce projet-là fait, c'est qu'il te dit, ou c'est mon interprétation évidemment, mais pour moi, c'est un projet qui te dit, écoute, c'est correct que tu ne sais pas, mais voici ton occasion, voici ta chance d'en savoir un peu plus. C'est pour ça un peu que l'action de rentrer, de te faire inviter, accueillir par les Afronautes, de te faire montrer comment chercher dans les archives, en quasi-silence, à part la trame sonore, évidemment, c'est un moment qui permet aux visiteurs, de façon très, très individuelle, de faire ce travail, parce que le travail antiraciste, c'est un travail qui doit être profondément personnel et individuel. Il faut absolument que l'individu, peu importe sa race ou sa religion ou X, Y, Z, cet individu-là doit d'abord commencer à l'intérieur de soi-même pour reconnaître les ignorances qu'il ou elle ou il a et commencer le travail de dénouer le tout. Et le lab, à mon avis, a eu ces deux impacts-là. J'ai eu des conversations hyper intéressantes dans cet espace-là, autant avec des personnes racisées, des personnes noires ou avec des personnes blanches. Parce que l'expérience est complètement différente, parce qu'il y a un savoir qui n'est pas égal et une expérience qui n'est pas la même. Et donc, je crois que les gens étaient ouverts au projet, mais je crois aussi qu'il y a des gens qui étaient vraiment très mal à l'aise. Je vais être honnête avec toi, tu me connais. Oui. et j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il y avait des gens, surtout des Blancs, qui ne voulaient pas physiquement entrer dans l'espace, qui étaient tellement mal à l'aise, physiquement, ils étaient incapables de rentrer dans le lab. Et pour moi, c'est super révélateur. Tu sais, qu'il y a des gens qui, comme moi, qui vivent le malaise du racisme à tous les jours. Tu sais, je suis inconfortable presque constamment à cause du racisme qui existe dans notre ville. Donc, cet inconfort, j'ai l'habitude de le vivre, mais pour une personne blanche, d'avoir l'option de rentrer dans une situation inconfortable pour un temps indéterminé, c'est ton choix, tu restes 5 minutes ou tu restes 1 heure, peu importe, c'était inconcevable pour eux. Donc, il y a eu vraiment un mélange extraordinaire de réactions. Mais je crois que dans tous les cas, que ce soit la personne inconfortable qui n'entrait pas dans l'espace, ou la personne qui était assise pendant 2 heures de temps, dans chacun de ces cas, je crois qu'il y a eu un apprentissage et pour moi, c'est, il y a une grande valeur là-dedans.
Oui, il y a un impact aussi qui était à long terme. Donc, tu sais, ayant vécu l'expérience de cette salle-là, en effet, puisque tu dis, vient confirmer aussi des impressions que moi, j'ai eues et vécues. Et je pense que l'impact qui est à long terme, ça reste. C'est une installation, c'est un lab de recherche qui se termine pas au bout du temps que tu y as passé dedans. Ça te suit après.
Oui, tout à fait.
Tu viens de déposer ta thèse de doctorat. Ton travail examinait la représentation des femmes noires dans les gravures, les dessins et les peintures du 18e et 19e siècle. Et tu t'intéressais tout en particulier sur l'héritage de l'esclavage en lien avec la discrimination toujours présente vécue par les femmes noires en lien avec leurs cheveux. J'espère que je décris bien ton projet. Corrige-moi, s'il te plaît, si c'est inexact. Donc, à travers tes recherches, tu t'es plongé dans les archives qui témoignent de l'esclavagisme. Peux-tu me parler de ton expérience dans ces archives et les difficultés que tu as rencontrées pour être à même de raconter l'histoire des femmes que tu retraces dans tes recherches?
Ta description de mon projet était très, très bonne. En fait, c'est ça. Éventuellement, j'ai rajouté le vêtement aussi à mon analyse. En anglais, ça s'appelle dress, pas robe, mais plus l'habillement. Mais bon, les archives. J'ai eu des expériences extrêmement intéressantes dans les archives, tant au niveau de l'interaction chercheur-document d'archives, mais au niveau de l'interaction institution et personne. Au niveau institutionnel, j'ai vécu trois expériences très, très différentes. Parce que dans mon projet, dans ma thèse, je regarde Saint-Domingue, qui est maintenant appelé Haïti. Je regarde la Nouvelle-France, le Québec, Montréal et compagnie. Et je regarde la Louisiane, qui faisait aussi partie de la Nouvelle-France, mais qui fonctionnait de façon très différente. Donc, j'avais ces trois lieux et donc trois zones d'archives, disons, différentes à aller explorer. Pour mon expérience par rapport aux archives sur Saint-Domingue, j'en ai trouvé une bonne partie parce que il y a une bonne partie qui ont été numérisées, mais les archives nationales outre-mer en France, j'ai fait plusieurs tentatives d'entrer en contact avec eux avec l'intention de voyager pour aller en Aix-en-Provence pour visiter les archives en personne et j'ai jamais eu de réponse. Donc déjà, la porte d'entrée était fermée. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on n'a jamais répondu à mes courriels parce que j'en ai envoyé plusieurs, mais la porte n'était pas ouverte. Ensuite, pour ce qui est, et la raison pourquoi je devais aller en France, c'est parce que après la Révolution haïtienne, quand les Blancs ont été chassés de l'île, plusieurs d'entre eux ont pris leurs documents coloniaux avec eux et ceux-ci ont été archivés en France ou ailleurs, mais pas en Haïti nécessairement. Donc voilà. Ensuite, pour les archives sur la Nouvelle-France, Montréal, Québec, etc., la porte était ouverte. Donc, j'ai pu entrer dans les institutions, j'ai lancé des requêtes, on m'a répondu. Par contre, à plusieurs reprises dans les archives canadiennes, c'est le document qui est fermé. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'indexation, et tu vas me corriger parce que tu es archiviste et bibliothécaire, donc tu me diras si mon vocabulaire est le bon ou non, mais la façon dont les documents sont identifiés dans les bases de données ne me permettent pas de faire mon travail. C'est-à-dire que quand je suis dans une archive canadienne et que je cherche le mot noir ou négresse, il est impossible pour moi de trouver ce que je cherche parce que noir, ça va être associé à la couleur et négresse, ça a été effacé ou pas catalogué. Et donc, à moins d'aller lire le texte chaque document, et il y en a des milliers, et de façon très, très rapprochée, les chansons que je ne vais pas trouver ce que je cherche. Alors que, et la raison pour laquelle j'insiste pour te raconter ça, c'est parce que j'ai vécu le revers complet en Louisiane. Je suis allée à Nouvelle-Orléans et dans ces documents d'archives-là, tant en ligne qu'en personne, si je cherche le mot free woman of color, femme mulâtre libre, je trouvais tout. Tout était là. Donc, les documents sont identifiés non seulement par genre, ils sont identifiés par race et par classe sociale.
Okay.
Et pour moi, en tant que chercheur qui m'intéresse à une période où ces trois aspects de la personne sont extrêmement importants, ça veut dire que si je cherche uniquement les hommes qui étaient libres dans tel endroit et qui étaient noirs, je peux trouver cette partie des archives et ensuite commencer ma recherche. Alors que il y avait rien de ça dans le contexte canadien. Donc, avant même de pouvoir commencer de faire mon travail en tant qu'historienne de l'art, j'avais cette espèce de gymnastique à faire pour accéder non seulement à l'institution, mais aux documents. Une fois que j'arrive aux documents, là, la relation personnelle débute. Hélène, tu le sais, le nombre de fois que tu m'as trouvée dans mon bureau et que j'étais en morceaux, ou mais cette partie-là, tu ne le sais peut-être pas, mais le nombre de fois que je devais quitter physiquement mon bureau pour aller me réfugier aux toilettes ou dans le sous-sol parce que la douleur du processus de recherche était telle que je ne pouvais plus me retenir. J'étais incapable de retenir mes larmes. Parce qu'en fait, le nombre de fois que je trouvais l'histoire d'une femme ou d'une jeune fille dans l'archive qui était complètement inconcevable, pour moi, c'était très, très lourd. Et une des choses que j'ai essayé de faire dans ma thèse, c'est justement de tenir compte de ces histoires-là et vraiment d'être centrée sur ces femmes et ces filles que j'ai trouvées dans l'archive, que j'ai rencontrées dans l'archive, et de vraiment d'essayer de les voir en tant que des personnes et non des sujets. C'est une nuance qui est vraiment importante pour moi. Et donc, mon expérience dans l'archive était à la fois frustrante et très, très lourde. Et la différence entre la Louisiane et Montréal, la façon dont l'histoire essentiellement de la Nouvelle-France dans les deux endroits a été retenue est très, très, très différente. Par exemple, il y a une fois où j'étais dans un restaurant pour souper pendant que j'étais en séjour de recherche en Nouvelle-Orléans. Et sur le menu, il y avait un bref historique de l'édifice qui racontait que c'était, je ne me souviens plus, mais soit que c'était une prison où les esclaves noirs avaient été gardés pendant de telle date à telle date. Non, mais c'était vraiment très détaillé. Et c'était un moment d'éducation populaire sur le lieu. Les édifices étaient identifiés, les rues étaient identifiées. Il y avait des plaques historiques partout, 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 partout. Et c'était des plaques historiques qui reconnaissaient les vies des personnes qui avaient souffert et non uniquement les conquerors. Tu sais, c'était pas juste les blancs colons qui ont gagné, entre guillemets. C'était oui. Vraiment l'histoire de tout le monde. Et ça m'a marqué parce que, tu sais, quand je vais au Vieux-Montréal, il n'y a rien de tout ça. Au Vieux-Montréal, on n'aurait jamais cru qu'il y a eu l'histoire de Marie-Joseph Angélique, par exemple. Il n'y a pas un endroit auquel je peux songer qui, de façon très claire et directe et ouverte au public, raconte la vie de cette femme qui a été accusée du plus grand feu, d'un ouais. des plus grands feux de l'histoire de la ville de Montréal. Pour moi, c'était vraiment nuit et jour. Donc, je tourne en rond un peu pour répondre à ta question, mais c'est parce que c'était une expérience à plusieurs différentes facettes.
Mais ce que j'entends dans ce que tu témoignes, c'est que dans le fond, rendu au Canada, puis dans les archives que tu as consultées ici, oui, il y a une ouverture pour recevoir les chercheurs, mais il y a une invisibilité parce qu'il y a un manque de description. Donc, c'est comme si les gens qui ont décrit les documents n'ont pas pensé que la partie sur l'esclavagisme allait être de valeur de recherche plus tard. Puis, on n'a pas voulu identifier clairement, peut-être parce qu'un terme pouvait avoir l'air choquant, on n'a pas identifié clairement ces documents-là. Donc, on est rendu qu'on a des gens qui étaient invisibles dans la société au temps de leur vivant. Puis les traces qu'on pourrait en trouver aujourd'hui, puis pour pouvoir raconter leur histoire, sont encore invisibles. Donc, c'est comme un double effacement dans l'histoire.
Exactement. Tu le dis de façon beaucoup plus articulée que moi, mais,
non, mais c'est... en somme,
oui.
Oui, mais c'est quelque chose que... je pense qu'on a déjà eu des conversations sur ça aussi, sur les responsabilités de la description, d'indexation, tant du point de vue des collections que des archives. Puis c'est un sujet c'est un rôle qui est très important. C'est que le pouvoir de l'archiviste ou de la personne qui décrit les archives, il est très grand. Les archives sont des lieux de pouvoir dans la société en soi. On a souvent eu ces conversations-là, puis je pense que ton expérience témoigne directement de ça, puis c'est pour ça que je te posais la question, parce que je trouve que c'est important d'en parler aussi de ce rôle-là. Puis si des archivistes nous entendent, ben je pense que ça, le fait d'avoir ton témoignage, j'espère, va améliorer le jugement que les gens vont porter quand ils vont décrire des documents. À titre de commissaire à Artext, en 2019, tu as aussi monté l'exposition Spéculation, qui mettait en valeur le travail d'artistes et d'auteurs noirs, autochtones et racisés qui s'inscrivent dans le courant de la fiction spéculative qui inclut l'afrofuturisme. Ce sont des artistes qui, comme tu le dis dans ton texte de commissaire, posent la question, puis tu en as parlé plus tôt, le « et si ». Et si le colonialisme n'avait pas eu lieu, et si la traite des esclaves transatlantiques n'avait pas eu lieu. Donc, pour une personne qui s'intéresse à découvrir la pratique d'artistes qui explore ces spéculations, est-ce que tu as des recommandations ou quelques pistes de découverte à recommander?
Oui, c'est une question qui m'a beaucoup fait plaisir. Et bon, évidemment, il faut que je débute avec la mère de l'afrofuturisme, à mon avis, Octavia Butler, qui, très sincèrement, m'a changé la vie. Donc, n'importe quel de ses livres sont une bonne option, à mon avis. Mon livre favori, c'est Xenogenesis. Ça, c'est l'ancien titre. Le titre a été changé récemment pour Lilith's Brood, que je n'aime pas autant. Bref, c'est une série, une trilogie qui débute avec une femme noire qui se réveille dans une salle qui semble très simple, minimaliste, mais la salle est en vie. Le monde grandit à partir de là. Anyway, je ne vais pas plus vous dire là-dessus, mais c'est une trilogie qui m'est très importante. Ensuite, évidemment, il y a Nalo Hopkinson, qui est canado-américaine, qui raconte souvent des histoires qui ont lieu dans des villes canadiennes. Brown Girl in the Ring, c'est une très bonne option. Au niveau des arts visuels, je recommanderais le travail de Martine Sims, qui a écrit le Mundane Afrofuturist Manifesto, qui était présenté dans l'exposition. Le travail aussi de David Hart, sa vidéo Adrift est disponible sur son site web. Il y a aussi les performances de Kaponi Kiwanga, qui sont extraordinaires. Et aussi Denenge Duist Akpem, qui est une artiste américaine aussi extraordinaire. Voilà, ce serait mes recommandations. Voici vos devoirs.
Excellent, merci beaucoup. Puis pour en apprendre davantage sur le travail de Camille Turner, je vous invite aussi à consulter son site web qui a beaucoup d'informations sur ses différents projets, camilleturner.com. Et évidemment, quand on sera réouvert au public, vous pourrez aussi venir consulter son dossier. Donc, un travail très intéressant. Puis aussi venir lire les textes de Johanna Joachim, commissaire, historienne de l'art. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi.